Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui est le jour des mauvaises rencontres. Les gourmands, les avares, les colériques et les traîtres seront de la partie. Nous franchirons cercle après cercle chaque étape infernale qui nous conduira après le puits des géants jusqu'à Lucifer. Allez en route sur les chemins de la philosophie, ou plutôt en barque, puisqu'il nous faut franchir l'Achéron, le fleuve maudit, pour traverser l'enfer de Dante.
Nous pénétrons à présent dans le monde aveugle. Laissons là toute peur et toute lâcheté. Nous sommes arrivés aux falaises d'Achéron. Les âmes brisées foulent ce chemin tortueux pour embarquer sur le bateau de Charon.
M'aideras-tu, poète ?
Je serai ton guide dans cet endroit maudit, où tu entendras les cris de douleur des esprits tourmentés, qui endurent ici-bas bien pire que la mort. Tous les êtres qui meurent de tous les pays convergent ici comme un seul. Le redoutable Charon attend les humains qui jadis ne craignaient pas le Seigneur.
Mais qui sont ces gens-là, si malmenés par la souffrance ?
Bruno Pinchard.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes doyen de la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon 3 et président de la Société Dantesque de France. Est-ce que le diable en fait partie ?
Oui, nous l'invoquons assez régulièrement.
Elle est toute neuve, cette Société Dantesque ?
Oui, elle est née en 2015-2016. J'en ai eu l'idée parce que je ne pouvais porter seul les images des attentats que nous avions traversés et rassemblant ce qui était encore rassemblable. Je me suis dit, il faut trouver un lien avec la Méditerranée, toutes les rives de la Méditerranée, pendant qu'il est encore temps. Et Dante porte cette capacité. Et il nous faut un rite. Et ce rite, c'est celui que nous pratiquons dans la Société Dantesque. Nous lisons Dante, nous le commentons, nous invitons des grandes voix, et ça a eu un succès formidable. Nous sommes entourés de beaucoup de sociétaires, et nous avons une vraie vie à la fois nationale et internationale autour de Dante et de ce culte nouveau.
Mais l'adjectif dantesque est à double sens et double entrée. D'un côté, il y a le côté gargantuesque quasiment, pour reprendre peut-être un synonyme, mais il y a aussi un côté apocalyptique, quelque chose de beaucoup plus sombre que démesuré.
Oui, c'est plus sensible en français qu'en italien, curieusement, parce que vous pouvez parler en italien l'amore dantesco, ça veut dire que vous aurez un amour sublime ou épuré. Si, en revanche, je vous dis que vous avez un amour dantesque, il est très certain qu'il y aura de la violence et qu'il y aura quelque chose d'abyssal dans cet amour. Et la France a cette particularité, elle n'a rien compris à Dante jusqu'à la Révolution française, mais avec l'époque romantique, c'est-à-dire avec les bilans, au fond, des déchaînements de forces qui se sont produits pendant la Révolution, alors là, la France s'est postée en avant et elle a inventé non seulement un Dante, mais une possibilité d'une lecture radicale qui implique à la fois l'aspect paradisiaque de Dante, mais son caractère infernal. C'est pourquoi la France est leader, d'une certaine façon, de l'image de Dante. Il suffit, bien sûr, de dire tout de suite Delacroix et Balzac, ça suffira pour ouvrir le sujet.
Balzac, auteur de la comédie humaine. On retrouve le terme de comédie, on en parlait hier avec Didier Ottaviani. Il ne faut pas entendre par comédie forcément ce qui fait rire, mais ce qui est de l'anti-tragique quasiment. C'est une autre manière
de proposer un récit. Qui s'arrache au tragique et produit une issue.
Et qui finit bien.
Oui, qui finit bien. Hein,
c'est pas gâcher la fin du récit que de dire que ça finit bien. Un mot sur la postérité de cette divine comédie dont nous parlons cette semaine. Vous dites qu'en France, on l'a redécouverte tardivement. Aujourd'hui, les références à la Divine Comédie sont très nombreuses dans la littérature, dans la musique, dans le cinéma. Et aussi, c'est l'extrait qui a ouvert cette émission dans le jeu vidéo. On a entendu un extrait de Dante's Inferno, le cinématique du jeu qu'on trouve sur PlayStation 3. Et vous disiez en l'écoutant, mais c'est une très bonne adaptation.
Très bonne, je la trouvais éclatante. Même le Vinci Code qui portait sur la féminité et l'initiation avait des éclats dantesques, qui est devenu d'ailleurs ensuite Inferno. Il y a des vulgarités sur Dante qui lui vont très bien.
Ça, c'est une belle façon de le dire, ce qui veut dire que la démesure, parfois, qui a mauvaise presse aujourd'hui, eh bien, peut avoir un côté plus poétique. On entendait juste après l'extrait du jeu vidéo, un extrait d'AC/DC, Hell's Bells. Commençons par le commencement, Bruno Pinchard. À l'origine de ce texte, se trouve, bien loin de la démesure et de la violence, un sentiment qui est le sentiment amoureux, qui va guider Dante tout au long de son itinéraire, jusqu'à ce qu'il retrouve Béatrice. Et cet amour, peut-être on peut commencer par là, en fait, précède la rédaction de la Divine Comédie.
Oui. Je voudrais vous mettre la lumière sur un phénomène tellement étrange. Le mot « amour » est un mot latin, et les Grecs n'ont pas eu ce mot. Et il a été à la charge, au fond, de la langue latine, de proposer cette union entre l'éros et l'agapé, que ensuite les théologiens capricieux ont voulu séparer, alors que le destin de Rome, qui est d'ailleurs le renversement des lettres d'amour, amor Roma, le destin de Rome est de témoigner d'amour. Victor Hugo a une formule extraordinaire, hein, il dit « Platon a dit... Eros, Virgile a dit amor. » Et ça, c'était une intuition parfaitement juste. Donc, reconnaissons en Dante ce trait minimal, mais rassembleur. Il est celui qui prononce d'une façon si complète, si absolue le mot amor, qu'il nous aide aujourd'hui encore à nous orienter dans les abîmes de l'amour.
Mais que dit-il de nouveau sur l'amour? Parce que même s'il écrit il y a bien longtemps, au début du XIVe siècle, beaucoup de choses avaient déjà été dites sur l'amour.
Il écrit excessivement sur l'amour, c'est-à-dire que il est capable de soutenir des envols d'un raffinement inouï et d'une délicatesse d'âme qui nous possède quand il parle de l'amour de Béatrice ou de quelque autre égérie. Et en même temps, il est capable de vous soutenir que c'est l'amour qui a fondé l'enfer. Je vous rappelle que c'est le primo amor, hein, l'amour premier qui est le maître d'œuvre, l'architecte de l'enfer. Donc, pour soutenir ces excès-là, il y avait eu des grands troubadours. Arnaud Daniel a l'idée que l'amour est capable de porter des contradictions stridentes. Mais Dante, c'est la stridence absolue dans l'amour. Voilà pourquoi il compte aujourd'hui. Et voilà pourquoi prononcer le nom de Dante, c'est faire résonner une sorte de caverne dans laquelle l'amour se déploie avec une force singulière.
Pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, on va entendre un texte qui précède la Divine Comédie, en tout cas au moment de sa rédaction, qui s'appelle « Les rimes pierreuses ». Écoutez cet extrait interprété par le comédien Georges Clès.
J'en suis venu au point de la roue, là où l'horizon, quand le soleil se couche, fait éclore le ciel jumelé, et l'étoile d'amour s'éloigne de nous, à cause de la lumière qui l'enfourche, la prenant de travers et la voile. Et la planète qui renforce le gel se montre tout à nous par le grand arc où chacune des sept lui fait peu d'ombre. Pourtant, jamais ne m'abandonne une seule pensée d'amour qui pèse sur mon esprit, rendu plus dur que pierre, à tenir très fort une image de pierre. Du sable d'Éthiopie se lève le vent errant qui trouble l'air à cause du soleil qui l'échauffe à présent. Il franchit la mer où il soulève telle masse de brume que si rien ne l'arrête, il enferme et scelle tout notre hémisphère. Puis il se dissout et tombe en flocons clairs de froide neige et d'ennuyeuse pluie dont tout l'air s'attriste et pleure. Et amour qui retire ses filets lorsque le vent s'élève, ne me laisse pas, tant est belle dame, cette cruelle qui m'est donnée pour dame.
Quand on les écoute aujourd'hui, ces rimes à la Dame de Pierre peuvent évoquer des poètes beaucoup plus modernes que Dante. On pense à Baudelaire, on pense à Verlaine aussi, avec le terme d'hémisphère qui revient beaucoup, avec en plus cette dimension cosmique, Bruno Pinchard.
Il y a une respiration dans ces vers qui est d'ailleurs paradoxale, puisqu'au fond cette dame est de pierre et elle va marquer de son gel la relation amoureuse qu'elle peut avoir avec Dante. Mais elle mobilise toutes les vibrations cosmiques. Et ça, cette amplification répond à ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire un excès d'amour en toute chose. Virgile avait dit « Amor omnia vincit », l'amour est vainqueur de toute chose. Ce tout a été pris très au sérieux par Dante et a donné cette illumination que vous voyez dans ses vers. Ces vers à la Dame de Pierre vont aussi être l'occasion pour Dante d'inventer ce qu'il appelle les rimes âpres. Et les rimes âpres, c'est l'instrument musical et linguistique qu'il va utiliser pour se donner la force de dépasser l'amour courtois à la française, enfin en tout cas à l'occitane, et créer ce son fondamental unique qui est le propre de la Divine Comédie, qui est comique mais âpre.
Quel lien entre le poème qu'on a entendu et cette Dame de Pierre et la Divine Comédie avec Béatrice en reine-mère qui règne sur l'itinéraire de Dante?
Cette dame est du côté de la pierre, de la cristallisation, de l'arrêt. Et pourtant, il faut marcher. Une des exclamations qui revient tout le temps dans la Divine Comédie, c'est « Troppo fisso », tu es trop immobile. Troppo fisso. Donc, à rester dans la contemplation, même âpre, de la Dame de Pierre, la métamorphose ne se fait pas. Il faut...
Être en marche.
Être en feu.
Et ce feu continue de brûler en permanence, puisque c'est toujours aussi une pensée de la, non seulement cosmique, mais de la lumière et du feu qui s'élève, comme la connaissance et comme l'amour. On voyait hier avec Didier Ottaviani qu'il y avait un même élan chez Dante. Celui de l'amour est aussi l'élan de la connaissance.
Et regardez, cette chose étonnante, il cite Arnaud Daniel avec une grande précision, en s'amusant à écrire en occitan. Il y a des vers en occitan dans la Divine Comédie.
Qui est Arnaud Daniel?
Le grand forgeron de la langue vulgaire, comme il l'appelle. C'est-à-dire le grand troubadour qui a porté à son plus haut degré ce qu'on appelle les sextines, c'est-à-dire des formes poétiques comme celles que nous venons d'entendre à l'instant. C'est celui qui a inventé qu'on pouvait chanter une dame par ses ongles. Et qui, à ce titre, ouvre déjà vers Mallarmé, bien sûr. Et d'entreprend Arnaud Daniel en occitan pour dire que lui, il pleure avec Arnaud Daniel, mais qu'il met ses larmes dans un fleuve de feu. Et il affine Arnaud Daniel dans ce feu. Et vous vous rendez compte que l'opération alchimique, la cristallisation devient liquéfaction à cet instant même.
C'est un penseur minéral et cosmique, vous l'avez bien dit. On va pénétrer dans l'enfer aux côtés de Dante. S'il est beaucoup question d'amour, si l'amour innerve tout ce récit qu'est la Divine Comédie, on y trouve aussi, et surtout en enfer, on y fait quelques rencontres qui sont loin d'être amoureuses, qui sont plutôt violentes, âpres, rudes, hirsutes, pour reprendre les adjectifs que Dante emploie à propos de son propre vocabulaire.
Mais son amour est hirsute, n'est-ce pas?
L'amour stridence, lui-même est hirsute.
Stridence.
Oui, mais peu d'amour se trouve dans la rencontre avec le diable, avec les géants, avec les traîtres.
Mais l'amour a inventé, forgé et décidé la géométrie de l'enfer.
Mais qu'est-ce que ça, pourquoi dites-vous ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il poursuit, si vous voulez, au-delà d'opposition entre, par exemple, la façon freudienne, entre le monde de la pulsion et le monde du refoulement ou de la sublimation, et il pense qu'il y a continuité et que les forces les plus radicales de la destruction sont encore et déjà des forces d'amour. L'amour gouverne un cosmos chaotique, tout simplement parce que l'amour, c'est la contraction vers l'unité. Et donc, les choses se contractant vers l'unité peuvent en finir à se détruire. Il y a donc un vertige de l'autodestruction dans l'amour. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il n'y a ni Eros, ni Agapé, c'est-à-dire charité, mais qu'il y a l'unité d'un amour qui se fait convergence du sens de l'univers dans son entier, jusque dans le mal. Il y a un mal amoureux.
Ces vertiges de l'amour sont symbolisés dans la Divine Comédie par autant de cercles. Il faut franchir des cercles. Le premier cercle est celui des limbes, le second celui de la luxure, au champ 5. Le troisième, la gourmandise. Le quatrième, les avares et les prodigues. Le cinquième, la colère. Le sixième, l'hérésie. Le septième, la violence. Et on va s'arrêter un peu sur ce champ, ce cercle de la violence, parce qu'on va y faire une rencontre qu'on va vous proposer à vous, chers auditeurs. Cette rencontre est très particulière. Il s'agit du Minotaure, qu'on connaît peut-être parce qu'il est tiré de la mythologie grecque, cette forme monstrueuse qui va nous introduire à l'univers dantesque infernal.
Le lieu où nous parvînmes pour descendre la berge était abrupt. Et un tel monstre s'y tenait que tout regard s'en serait détourné. Tel est cet ébouli qui a frappé l'Adige droit dans le flanc au-dessous de 30 à cause d'un tremblement de terre ou d'un appui manquant, si bien que, de la cime d'où elle tomba jusqu'à la plaine, la roche s'est ainsi écroulée qu'elle forme un chemin pour qui serait en haut. Telle était la pente de ce ravin. Et sur le bord de la roche effondrée, l'infamie de Crète était vautrée, celui qui fut conçu dans la fausse vache. Quand il nous vit, il se mordit lui-même comme quelqu'un qui est rongé par la colère. Mon sage lui cria, « Tu crois peut-être qu'ici se trouve le roi d'Athènes qui te donne à la mort sur terre. Va-t'en, bête, celui-ci ne vient pas avec les leçons de ta sœur, mais il s'en va pour voir vos peines. » Tel le taureau qui rompt ses liens quand il a déjà reçu le coup mortel et ne sait plus marcher, mais sautille çà et là. Ainsi, je vis sauter le Minotaure, et mon maître avisé cria « Cours à la brèche, pendant qu'il rage, il est bon de descendre !» Ainsi nous descendîmes par cet amas de pierres qui souvent remuait sous mes pieds par l'effet de la charge inhabituelle. J'avançais, tout pensif. Il dit « Tu penses peut-être à l'ébouli qui est gardé par la colère bestiale que je viens de calmer ?» Ô cupidité aveugle et colère folle qui nous éperonne dans la courte vie pour nous baigner si mal dans l'éternel.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à la Divine Comédie de Dante, aujourd'hui en compagnie de Bruno Pinchard. Nous venons d'entendre un extrait des ruines infernales, donc dans le septième cercle de l'enfer de Dante, où se trouvent ceux qui ont été violents contre leurs prochains. Ici, on entend, là, ça c'est la description d'un décor très minéral, il y a des pierres, des rochers, surtout un ébouli, et c'est cette... Ce monstre, ce personnage si bizarre qu'est le Minotaure, qui serait à l'origine de l'ébouli qui sert de décor au violent qui se situe en enfer, Bruno Pinchard.
Et pensez aussi au torrent qu'est l'Adige, dont il fait allusion ici au cours tempétueux. Les vers de Dante descendent comme des torrents de montagne et viennent dévaster, au fond, le fond de la terre. Et vous avez vu ces pierres qui branlent sous le poids de ce corps, car toutes ces pierres ne sont frôlées que par des morts. Et soudain, il y a un pas d'homme vivant, et la pierre crisse, la pierre croule. Ce mélange de pierre et de colère est véritablement la musique intérieure de cet enfer. Et quelques vers plus loin, si nous l'avions poursuivi, il ajoute « Je me demande qui et comment ce chaos est gouverné. » Et c'est là qu'il revient sur cette idée. Il y a des gens qui croient qu'à plusieurs reprises, l'amour a poussé l'univers au chaos. Et là, c'est une allusion bien sûr au pré-socratique, à Empédocle, à toute l'idée que l'amour et la haine gouvernent l'univers. Le Dante très chrétien reprend là les intuitions les plus profondes de la Méditerranée. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, trouvons une note méditerranéenne par Dante. Et voyageons dans cet ébouli que le monde présocratique a conduit jusqu'à nous. Et essayons de trouver une sorte, là encore, d'amour dangereux, mais qui nous réunisse avant des fractures radicales.
Mais quelles sont ces ruines ?
Elles sont les ruines des circulations infernales antérieures au Christ. Et comme au jour de la croix, le tremblement de terre se propage depuis le corps du Christ jusqu'au tréfonds de la terre, les couloirs se sont mis à bifurquer et Virgile, qui est déjà descendu,
qui est le guide de Dorotin,
qui est déjà descendu avant la mort du Christ, découvre des nouveaux couloirs qui ont été créés par les changements du tremblement de terre. Donc, vous êtes dans une sorte de Jules Verne, de descente au centre de la Terre, qui inclut non seulement des architectures étranges, il y a des endroits, il décrit que les pierres sont ajointées une à une, et il dit qu'il y a eu un maître pour construire sous la terre. Quel est l'architecte du souterrain ? Quel est le géomètre qui construit l'arrimage des pierres sous la terre ? Vous voyez les questions et les traditions, les mythologies qui viennent s'abreuver à l'enfer de Dante. Il n'y faut pas entendre que le sens littéral, comme vous comprenez, mais il faut être amoureux de l'allégorie qu'en permanence il libère.
Exactement, et il faut lire, quand on lit la Divine Comédie, on a parfois l'impression qu'il faut avoir le même degré à la fois d'abstraction, d'imagination, mais aussi de culture que lorsqu'on lit, par exemple, l'Ancien Testament. C'est la même,
voilà,
sorte de récit très
donc,
allégorique.
Lui-même, dans sa lettre qui introduit à la lecture de la Divine Comédie, la lettre 13, dit que il faut le lire comme la Bible, d'où l'idée que c'est le cinquième évangile.
Il y a l'idée aussi d'une espèce de hiérarchie des péchés. J'ai lu la liste des péchés qu'ont commis les gens qu'ils rencontrent en enfer, la luxure, la gourmandise, les avares et les prodigues, la colère, l'hérésie, la violence, les fraudeurs et en tout dernier les traîtres. Il apporte un ordre nouveau quand même aux péchés capitaux.
Oui, il considère que le péché suprême est en aucune manière la luxure, ni même la violence.
Non, ça vient en premier d'ailleurs.
Ni même la colère. Les deux péchés graves, absolument graves, c'est la fausse innocence, l'indétermination, le manque d'engagement qui fait que vous êtes réduit à un pauvre âme qui court et qui est piquée par des insectes. Ça, c'est la figure la plus grotesque de l'enfer. Et la figure la plus terrible absolue, c'est celui qui a trahi l'empereur. C'est Brutus qui a trahi César. Et donc,
mais aussi Judas qui a trahi le Christ.
Bien sûr, mais le Christ en tant qu'il porte une forme d'empire, l'empire du salut. Ce qui fait que le mot secret qu'il faut entendre dans les violences ultimes de Lucifer, c'est le mot empire.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ça veut dire que c'est toute la politique de Dante qui est derrière. Si tu vis, tu es destiné à la terre. Si tu es destiné à la terre, tu dois entendre ton empereur. Et si tu trahis ton empereur, tu dois disparaître au centre de la terre. Voilà ce que dit Dante. Et c'est ce qu'on appelle le giblinisme, c'est-à-dire célébrer l'égalité à tout le moins du pape et de l'empereur et ne pas soumettre la grandeur impériale à la jalousie papale.
Il faut dire qu'au moment où il écrit, il y a un conflit entre l'empereur d'un côté et le pape de l'autre. Quel camp choisit-il ?
Ah, le camp d'abord impérial, et après lassé des trahisons et des impuretés des gibelins. Au fatto partem stesso, j'ai fait un parti pour moi tout seul.
Ah, donc pas celui du pape non plus.
Ah, il n'est jamais revenu au parti papal, ça, je vous le garantis.
Alors, dimension religieuse, même présence du Christ, des textes religieux, en même temps, il ne suit pas le pape, ça veut dire quoi, que lui-même se prend pour Dieu ?
Ah, vous commencez à toucher les choses intéressantes, c'est-à-dire que il y a deux choses à dire ici. Il prétend connaître des pratiques pour devenir quasi un altro Dio incarnato, c'est-à-dire quasiment un autre Dieu incarné. Bon. Et vous savez qui le confère ? C'est pas une grâce, c'est même pas une initiation, ce sont les étoiles qui lui offrent ça. Quasi un altro Dio incarnato.
Pourquoi quasi ? Qu'est-ce qui lui manque ?
Ah bah quand même, il reste élégant.
Un mot.
C'est
l'élégance.
Il reste bien élevé. Donc, d'une part, cette richesse, cette détermination fatale, et d'autre part, le fait que son discours est en permanence double, il reprend l'habillage de l'orthodoxie du magistère du Vatican, et il lui fait dire de telles extrémités qu'il est extrêmement difficile de l'associer, comme l'a fait pourtant toute une tradition, aux anames en particulier, mais pour une certaine part aussi, Gilson, un tenant de l'ordre catholique. Donc, il est l'habillage catholique absolu sous lequel perce une force qui ne s'identifie pas. C'est pourquoi d'autres gens beaucoup plus intelligents que les interprètes catholiques en ont fait un sataniste. Et j'ai nommé Arouf. Eugène Arouf, député de Normandie, a inventé un commentaire hallucinant de la Divine Comédie pour montrer, en son livre extraordinaire s'appelle « Dante hérétique révolutionnaire », pour montrer que c'est un gibelin pré-révolutionnaire qui propose une hérésie sous le masque impénétrable de l'orthodoxie.
Donc ce n'est pas un auteur chrétien ?
C'est un auteur qui prend toutes les vibrations du christianisme, jusqu'à leur danger suprême.
Bon, on voit que l'élégance est toujours de mise. Vous citiez le Da Vinci Code en début d'émission. C'est vrai que quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a une lecture de la Divine Comédie qui serait comme un roman policier fait d'énigmes et de devinettes qu'il faut résoudre pour essayer de continuer à avancer sans savoir ce qu'on va trouver au bout, mais on est presque sûr qu'il y a une solution. Il y a quelqu'un, il y a un architecte, disiez-vous.
Oui, la vraie solution.
Le meilleur remède contre le scepticisme.
Oui, la vraie solution, vous l'avez articulée tout à fait au début en faisant valoir qu'il avait construit une œuvre parfaite. Mmh. C'est cette perfection qui dicte à l'interprète sa tâche. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une société dantesque. Vous avez un objet parfait à partager que personne ne comprend, parce qu'il faut quand même être tout à fait clair là-dessus. Personne ne comprend Dante. Mais nous attachons à un objet parfait, mais impénétrable. Et c'est évidemment pourquoi il y a des querelles monstrueuses, fraternelles, entre les dantologues, et qu'il y a des gens qui prennent des grands risques avec Dante.
Une autre rencontre, mauvaise ou pas, je ne sais pas, en tout cas assez étrange, que l'on fait en enfer aux côtés de Dante, au chant 14, c'est celle du vieillard de Crète. Avant qu'on entende le texte, dites-nous qui est ce vieillard de Crète.
Ce vieillard de Crète est une statue qui règne au milieu de la Crète, et dont les larmes alimente les fleuves infernaux. Et j'aime à citer ce texte comme une figure de ce que c'est que le lecteur de Dante.
Ah, un vieillard.
Pourquoi ? Un vieillard, il a une particularité extraordinaire. La statue a tourné. Elle était jadis tournée vers Damiette, c'est-à-dire l'Égypte. Et elle s'est retournée vers Rome, et depuis lors, elle pleure. Eh bien, je crois que c'est cela, lire la Divine Comédie, c'est savoir que la clé du monde n'est plus au Moyen-Orient, mais que la clé du monde se tourne vers l'Occident, mais que c'est à un prix, et ce prix c'est un mélange à la fois de beauté et de rouille, d'or et de sang, qui fait le profil parfait du lecteur de Dante.
« Au milieu de la mer est un pays détruit, dit alors mon guide, qui s'appelle Crète. » Et sous son roi, le monde jadis fut innocent. Une montagne s'y trouve, autrefois riante d'eau et de plantes, qui avait nom Ida. Déserte à présent comme chose passée. Réa la choisit autrefois pour berceau de son enfant, et pour mieux le cacher quand il pleurait, elle y faisait pousser des cris. Debout dans la montagne est un grand vieillard qui tourne le dos à Damiette et regarde Rome comme son miroir. Sa tête est façonnée d'or fin, ses bras et sa poitrine sont en pur argent, puis il est de bronze jusqu'à la fourche. De là jusqu'à son bas, il est de fer trempé, sinon que son pied droit est de terre cuite, et il s'appuie sur celui-là plutôt que sur l'autre. Chaque partie, à part l'or, est percée d'une blessure par où coulent des larmes, lesquelles, en s'amassant, trouent cette grotte. Leur cours descend de roche en roche dans la vallée. Elles forment l'Achéron, le Styx, le Phlégéton. Puis, elles s'en vont en bas par un étroit canal jusqu'à ce point d'où on ne descend plus et forment le Cocyte. Et quel est cet étang ? Tu le verras, n'en parlons pas ici. Puis il dit, il est temps à présent de s'éloigner du bois. Viens derrière moi. Les bords qui ne sont pas brûlés font une route, et sur eux toute flamme s'éteint.
Thank you.
milieu de l'enfer se trouve un lac gelé, le Cocyte. On n'a pas fini de l'arpenter ensemble, Bruno Pinchard. Un mot encore sur ce vieillard de Crète. C'est les larmes du vieillard. Que représentent-elles ?
Je pense que nous retrouvons ce qu'on appelle la terre gaste dans les romans arthuriens, c'est-à-dire la terre dévastée par la blessure du roi. Ce vieillard de Crète, c'est le même roi que celui qui est dans Le Roi Pêcheur, dans le conte du Graal. C'est le conte du Graal. Et le sang coule par la plaie, exactement ce qui sera à nouveau présent dans le Parsifal de Richard Wagner. Et c'est cela qui doit être relevé par le purgatoire et par le paradis Dante, écrit un larmoiement fondamental de la condition moderne et tâche de le retourner en un rubis qui est son œuvre. Et donc, croyez-le, je crois que c'est très bien de commencer par lire la Divine Comédie par le vieillard de Crète, car c'est sur ces terres brûlées que nous avons à vivre en regardant Rome s'enfoncer. Et en même temps, nous avons la force peut-être d'aller jusqu'à arriver derrière les stèles, c'est-à-dire revoir les étoiles.
Mais l'avons-nous cette force ? Parce qu'on ne lit pas aujourd'hui Dante comme on pouvait le lire à l'époque. Quand on parle d'enfer aujourd'hui, après le XXe siècle, après certains épisodes qui sont eux d'une tragédie absolue, où il y a le sens même de comédie n'a plus de sens, est-ce qu'on peut encore recevoir ce que Dante dit de l'enfer ? Est-ce que la dimension esthétique, poétique et pleine d'amour que vous évoquez depuis le début de cette émission peut encore être audible aujourd'hui ?
Non pas pleine d'amour, mais rageusement amoureuse. Oui, je pense que c'est pourquoi, là encore...
Il faut poser la question.
Nous avons besoin de Dante, parce que Dante est le chemin étroit. Il parlait à l'instant d'une toute petite route qui passait, qui évitait les obstacles. Eh bien, c'est ce chemin très étroit qui permet encore de passer, après les holocaustes du XXe siècle et de ceux des siècles qui vont venir. Et donc, sachons-le, il est la pointe de la pyramide, très aiguë, très effilée, mais nous pouvons encore passer par ce point. Et c'est en tout cas cette conviction qui m'anime dans la défense de la société dantesque.
Parce que la Divine Comédie ne se réduit pas à l'enfer, mais il faut prendre l'enfer au sérieux. Et c'est vrai que c'est peut-être la limite de la dimension allégorique, c'est qu'elle n'a pas le même sens selon l'époque où nous lisons ce texte. Je pense à ce que Jacqueline Risset, la traductrice de la Divine Comédie, écrit dans la préface qu'elle propose à l'enfer. Justement, elle pose cette question-là et elle dit « On pense à la terrible carte d'Europe qu'on peut voir encore à Auschwitz, où un réseau secret semble avoir pris la place des réseaux de chemins de fer connus. Toutes les capitales y figurent avec leur nom, mais elles ne sont pas reliées entre elles. Une seule ligne les relie toutes, une par une, au point central du réseau, marqué par le nom Auschwitz. » Difficile ici de ne pas penser au diable, à Lucifer, ce diable qui sera ridiculisé par Dante, mais qui figure au cœur de l'enfer.
Et oui, mais sachez que, précisément, nous avons trois noms pour faire face à cette charge écrasante. Nous avons Homère, avec la chute de Troie, qui éradique une société, une ville, un monde. Nous avons Virgile, qui chante et qui reprend cette idée d'une ville brisée dans son âme profonde et qui vient d'Orient. Et enfin, nous avons Dante, qui donne la même chaîne de résistance au non-sens. C'est la phase qui est là, en écho et en résonance avec les paroles les plus dures de l'Ecclésiaste, avec les paroles les plus radicales d'Isaïe. Car ce que nous avons eu à porter avec Auschwitz est aussi dans la Bible. Donc, il existe quelques paroles calcinées, encore une fois, dans la Bible et dans la Divine Comédie, en tant qu'elle porte la chute de Troie, qui nous permet de faire peut-être un très léger pas en avant. Il dit une chose extraordinaire, que quand on n'a pas la grâce, si je vous fais un dessin d'une ligne sur le sol, vous ne pourrez même pas lever la jambe pour passer par-dessus cette ligne qui a été dessinée. Eh bien, Dante, c'est cette grâce qui permet de franchir le fossé que nous a imposé le XXe siècle.
Comme si la seule manière de ne pas sombrer dans le gouffre ouvert était en fait de se réconcilier avec une forme de démesure. En fait, Dante, c'est ça, c'est ne pas répondre à la démesure monstrueuse par le sens de la mesure, de la modération, mais au contraire rétorquer par une autre démesure qui, elle, serait peut-être rageusement amoureuse, pour reprendre votre terme.
Je pourrais dire que c'est une critique de l'éthique. Parce que au début de l'œuvre, il pouvait monter sur une montagne dans l'hémisphère nord et contempler les vertus du soleil levant. Il préfère, sous le guide de ce mort d'exception qu'est Virgile, descendre sous la terre et de se donner une visée ou un avenir éthique, non pas dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, après avoir traversé de part en part la terre. Donc, il y a d'éthiques possibles que dans l'île de Pâques, pour le dire d'une façon plaisante, en tout cas dans les îles australes, car c'est sous la Terre que peut croître un destin éthique, mais pas sur la Terre. Et voyez, ce jeu entre les hémisphères est le courage de basculer ta tête pour marcher sur tes pieds. Et ainsi, tu rejoindras l'éthique que tu mérites.
C'est exactement ce qui se passe lorsqu'à la fin de, au dernier cercle, ils rencontrent Lucifer et qu'ils doivent escalader le diable. Et lui pense qu'il passe de l'autre côté de la tête. Il retrouve les cuisses et il se rend compte qu'en fait, il y a ce point de basculement incarné par Lucifer lui-même. C'est un moment comique, disons-le. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble.
L'empereur du règne de douleur sortait à mi-poitrine de la glace. Et ma taille est plus proche de celle d'un géant que les géants de celle de ses bras. Tu vois donc par là quel doit être le tout qui correspondrait à telle partie. S'il fut aussi beau qu'il est laid à présent, et osa dresser les yeux contre son créateur, il faut bien que tout mal vienne de lui. Oh, quelle stupeur ce fut pour moi quand je vis que sa tête avait trois faces, l'une devant qui était vermeille et les deux autres qui s'ajoutaient à la première, se rejoignant à l'endroit de la crête, sur le milieu de chaque épaule. Mais la nuit revient, et à présent il faut partir, car nous avons tout vu. Il saisit le moment et le lieu opportun, et lorsque les ailes furent grandes ouvertes, il prit appui sur les côtes velues, puis de touffe en touffe, il descendit entre les poils drus et les croûtes glacées. Quand nous arrivâmes au point où la cuisse s'emboîte au saillant de la hanche, mon guide, avec fatigue, avec angoisse, porta sa tête où se trouvaient les jambes et s'agrippa au poil comme pour monter, si bien que je croyais retourner en enfer. « Accroche-toi bien !» dit mon maître, haletant comme un homme harassé. « C'est par de telles échelles qu'il faut quitter ce lieu de tant de mal. » Puis il sortit par le trou d'un rocher et me posa assis sur le rebord, me rejoignant ensuite à pas prudent. Je levai les yeux et croyais voir Lucifer comme je l'avais laissé, mais je vis ses jambes tenir en l'air. Avant que je m'éloigne de l'abîme, mon maître, dis-je quand je fus debout, dis-moi quelques mots pour me tirer d'erreur. Où est la glace et celui-ci? Comment tient-il planté à l'envers?
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah.
Et oui, enchantés, nous sommes d'avoir enfin rencontré Lucifer, le diable lui-même. Sympathy for the Devil chante les Stones. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de les voir en concert la semaine dernière. En tout cas, vous avez tous eu la chance ce matin de rencontrer le diable en personne. C'est formidable, Bruno Pinchard, cette description du diable. C'est un corps à corps que Virgile et Dante, qui le suit, livrent avec le diable. Ils escaladent touffe après touffe, est-il bien dit, hein, les cuisses du diable pour finalement se retrouver de l'autre côté en se rendant compte que le diable est le point de bascule vers un au-delà. et ce que je trouve particulièrement savoureux ici, alors c'est peut-être encore l'élégance qui sera le fil conducteur de cette émission, c'est que dans la version qu'on a entendue, qui était une dramatique de France Culture, hein, qui datait d'il y a quelques années, eh bien, on avait omis certains vers qui sont pourtant les plus drôles à mon sens. C'est que lorsque le narrateur d'Antre raconte qu'une fois qu'il lève les yeux pour voir Lucifer comme il l'avait laissé, il se rend compte qu'il le voit ses jambes tenir en l'air, et il ajoute « Et si alors je fus troublé, les gens grossiers le penseront qu'ils ne voient pas quel est le point que j'avais dépassé. »
Il descend en s'accrochant au sexe et à l'anus du diable. C'est-à-dire que il y a pas d'identification du pouvoir du mal si vous ne retournez pas à la sexualité du diable. Et en même temps, c'est une scène d'accouchement puisque le fœtus se renverse, vous l'avez compris.
C'est ça.
Et donc, c'est à la fois homme et femme. C'est la contraction, je vous le redisais tout à l'heure à propos du chaos de l'amour, c'est la contraction que l'amour produit entre ici mâle et femelle, et en même temps ce dégagement extraordinaire de l'ironie qui fait que vous voyez ce diable qui vous a menacé pendant tout le cône nord de l'hémisphère de la Terre et qui soudain devient ridicule parce qu'on le voit par le trou du cul. Et donc, del suo culo fa trombetta, de son cul fa, il fut une trompette, même si ce vers ne correspond pas à ce passage exact, mais c'est la même idée. Et ainsi libres, ils peuvent cheminer par un sentier qui est ouvert par un petit torrent jusqu'à la surface de la Terre et vont apparaître donc en terre australe. Et c'est là que va commencer la seconde partie de l'aventure. Tout cela veut dire pas d'éthique sans renversement. Pas d'éthique sans l'étreinte du mal.
Et au sens propre du terme.
Au sens strict. Et pas d'éthique sans une curiosité sexuelle qui est ici totalement mobilisée. Et là, j'en profite pour le dire que nous sommes assez loin. Des solutions sur le désir mimétique, sur Girard, sur les façons de réduire la question de l'amour à la question d'une économie du désir, car il s'agit là de forces beaucoup plus radicales. Il ne s'agit pas d'expurger le désir de soi par un regard à la fois ironique et savant. Il s'agit de l'endurer et de s'en moquer. C'est pas du tout la même chose.
Non, mais l'érotique est mobilisée, mais avec le diable.
Bien sûr.
C'est une manière de la condamner ?
Non, de la concentrer. C'est-à-dire que le diable est au milieu de la Terre. Le diable sent peser sur lui toutes les forces de l'univers, puisque c'est un géocentrisme, je vous le rappelle. Donc le soleil, les étoiles, la croix du sud et l'étoile polaire pèsent sur le diable. Et c'est de là que s'effectue le renversement. Bien sûr, c'est une poétique du cercle qui suppose des révolutions intérieures, des métamorphoses, c'est une dynamique.
Oui, mais là, on en revient au sens allégorique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'organe sexuel du diable qui est décrit, pas du tout celui de Béatrice. Il y a une dimension complètement éthérée, divine, platonique de l'amour tel que le célèbre Dante, qui contraste avec la description, alors certes pas, disons, directe des organes sexuels du diable, mais qui quand même est bien réel. C'est-à-dire qu'il est difficile de pas...
Mais vous trouverez des organes sexuels, des vulves fécondées et techniquement analysé dans le purgatoire.
Voilà.
Sachez-le,
c'est-à-dire
que Dante n'est pas économe de la pensée du sperme et de l'ovule. Parce que justement, il mesure toute chose, comme il le dit d'ailleurs de Dieu, hein, au compas. Car c'est le compas qui permet de partager dans le monde ce qui est manifeste et ce qui est occulte.
On retrouve l'architecte.
Et bien sûr. C'est une descente dans l'obscène, un compas à la main.
Et alors, pourquoi commence-t-on par l'enfer et pas le purgatoire, normalement, précède et le lieu où on décide d'envoyer tel individu en enfer ou au paradis? Et là, on commence par l'enfer, puis le purgatoire.
Et vous lisez d'une façon trop littérale. C'est pas parce que c'est dans cet ordre dans les livres qu'il faut lire dans cet ordre. Je vous rappelle qu'à la fin, c'est un cercle. Et c'est exactement comme chez Hegel ou comme chez Proust, c'est un cercle. C'est-à-dire que à la fin, vous pouvez recommencer dans l'autre sens. Et une des questions les plus radicales que nous pouvons vivre aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train de lire la Divine Comédie à l'envers?
Il aurait fallu commencer par le paradis.
Et bien sûr, par l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, et qui nous conduirait pas à pas jusque au trognon qu'est Lucifer dans cette pomme qu'est la Terre, et finalement à revenir perdu dans la forêt obscure. Il faut un sens de l'opérativité chez le lecteur. Il faut qu'il fasse remuer son compas. Il faut qu'il fasse retourner les personnages. Il faut qu'il rende l'œuvre si souple qu'elle tourne comme les grandes sphères du ciel.
La question de savoir si on préfère commencer par l'amour ou par la violence.
En tout cas, c'est l'ordre simple. Mais vous savez, dans les grandes œuvres chez Hegel, c'est pareil. On peut commencer par la logique, on peut commencer par la nature, on peut commencer par l'esprit. Et à chaque fois, vous avez d'autres types de significations qui en découlent.
Si j'avais les rimes âpres et rauques, comme il conviendrait à ce lugubre trou sur lequel s'appuient tous les autres rocs, j'exprimerais le suc de ma pensée plus pleinement. Mais je ne les ai point, et non sans frayeur, je m'apprête à parler. Car ce n'est pas l'affaire à prendre à la légère que de décrire le fond de l'univers entier, ni celle d'une langue disant « papa, maman ». Mais que ces dames viennent secourir mes vers, qui aidèrent en fuyant à faire les murs de Thèbes, afin que le discours ne soit pas loin du fait. Ô engeance entre toutes mâles nées, qui habitent ce lieu dur à décrire, mieux t'en eût pris d'être chèvre ou brebis. Quand nous fûmes en bas dans le puits obscur, beaucoup plus bas que les pieds du géant, et que je regardais encore vers la falaise, une voix me dit « Prends garde quand tu passes ». Va si tu peux sans fouler sous tes pieds les têtes de tes frères humains qui souffrent. Je me tournai, et je vis alors devant moi et sous mes pieds un lac, à qui le gel donnait l'aspect du verre et non de l'eau. Jamais, en hiver, le Danube autrichien ni le Tanaïs là-bas, sous un ciel glacé, ne couvrirent leur cours d'un voile si épais qu'il était ici. Et si le Tambernic ou le Pietrapana étaient tombés dessus, même sur le bord, ils n'auraient pas fait crac. Nous sommes ici au chant 32, Bruno Pinchard, on s'approche de la fin. Et pourtant, Dante fait les mêmes remarques au début du texte, la difficulté à dire ce qui est. On y retrouve les rimes âpres et rauques, et la difficulté d'exprimer la sève même de sa pensée. Et pourtant, il s'apprête quand même à parler. C'est aussi une histoire d'une peur surmontée pour nommer ce qui est.
Vous avez vu l'ampleur de l'architecture, ce sont les plus grandes murailles de l'histoire humaine, en tout cas de l'histoire européenne, qui sont mobilisées, les murs de Thèbes. Ce sont les grandes mythologies de construction, c'est l'univers de Mélusine qui construit un château dans une nuit, et l'œuvre en terza rima, c'est-à-dire ajointée par une rimaison d'une rigueur extraordinaire, répond à cette nécessité de construire une architecture totale et colossal. Vous savez que Galilée s'est intéressé à cette structure, que Galilée a essayé de calculer la profondeur de l'enfer à partir des règles mathématiques dont il disposait, et il y est parvenu à sa façon. Et je voudrais aussi ajouter pour nos auditeurs parisiens qu'ils passent devant le Collège de France, car là il y a la statue de Dante, et cet instant où il est saisi dans le bronze, c'est les passages que vous désignez. Il marche sur la glace et il va heurter la tête d'un damné, et qui était un ennemi politique. Et au lieu de s'excuser d'avoir heurté cette tête que l'on voit dans le bronze, dans le square Michel Foucault, eh bien, il redouble de violence à son égard. Ça, c'est aussi Dante.
Mais comment lui trouve-t-il une langue adaptée à ce qu'il veut décrire, puisqu'elle dépasse toute forme de description?
Comment l'italien, qui est une langue fuyante, pleine d'élisions, chantante si l'on veut, mais si fragile et grammaticalement si instable, a réussi à devenir marmoréen, hein? Il y a dans cette langue, bien sûr, le latin qui croît derrière et qui appelle son heure de reconnaissance, mais je crois que la force, la transformation de cette langue, comme le français, qui n'est pas une langue mère et qui n'a pas la force des langues mères, cette transformation vient de la liberté qui est utilisée. On dit pas papa et maman. Voilà une façon de dire.
Ça, c'est
formidable. Il faut parler la langue des nourrices, dit Dante. Il faut parler la langue des... C'est-à-dire, c'est la langue rauque de la vérité. Ça n'est pas la langue savante d'une grammaire sophistiquée. Et cette brutalité était possible parce que l'italien, au fond, est un film très transparent et qui laisse paraître les choses derrière.
et très sonore également. À la fin du texte que j'ai lu, il dit bien, même sur, il décrit d'autres fleuves glacés, il dit même sur le bord, il n'aurait pas fait crac.
Eh oui, mais sonore, mais pas chantant, parce qu'on pourrait retourner vers une langue italienne chantante, mais ça c'est son maître en des Pétrarques, et on s'en va vers l'histoire du pétrarchisme en Europe. Dante, c'est le rugissement préalable qui dit non à cette histoire de l'esthétique européenne, et qui devient pour nous un témoin, dont je parlais tout à l'heure, qui, de Dante à Virgile, de Virgile à Homère, plaide pour les grands massacres de l'humanité.
Comment conseillez-vous à un lecteur qui n'aurait pas ses connaissances en tête de s'attaquer à Dante ? Par quoi il commence ?
Je dis en général de renoncer à la Divine Comédie parce qu'il faut d'abord qu'il apprenne.
Voilà, merci de nous dire ça le deuxième jour de cette semaine.
Mais oui, il faut qu'il apprenne d'abord l'allégorisation du texte dantesque. Donc la seule solution, il faut qu'il commence par aimer Béatrice, avec tous les risques que cela comporte. Donc c'est la Vita Nuova qui est l'entrée juste. Après, un peu de philosophie de Dante, et peut-être qu'il méritera au moins le purgatoire.
Ah, ça se mérite. Merci en tout cas Bruno Pinchard d'être venu nous parler de Dante aujourd'hui, de la Divine Comédie.
Au revoir.
Quand on voit tomber la nuit dans la brume du cimetière et qu'on voit son œil qui luit comme une lune en lampadaire, on entend hurler un chien dans la pénombre inquiétante, un craquement et puis soudain une voix dans la tourmente. Coupé, coupé, on commence la séquence, c'est pas assez épeurant, ça fera rire les enfants. Changeons de sujet, la descente aux enfers, c'est pas un documentaire. Y'en a que c'est la fraude fiscale qui sont extorqueurs de fonds, qui taquinent le code pénal en roulant sur des chèques pas ronds, qui se contentent bien que mal en fourrant le bien-être social. C'est pas donné à toute nature d'être un escroc d'envergure. Et on entendit une voix qui gueulait encore une fois: coupé, coupé, les budgets trop épais, on accorde un brique seulement aux fraudeurs intelligents. Décidément, la descente aux enfers, c'est pas un documentaire.
La descente aux enfers par Plume la Traverse. Bruno Pinchard, vous aviez une anecdote à nous raconter.
Savez-vous qu'il n'y a pas le mot « chat » dans la Divine Comédie ?
Pourquoi est-ce si intéressant ?
C'est si intéressant parce qu'il y a une superstition du chat qui frappe même un esprit de la hauteur de Dante. En revanche, que de chiens et de lévriers. Il n'y a pas de chat, mais il y a l'enfer. Il y a le Satan et il y a ses forces au fond de Minotauromachie. Picasso est au centre de la Divine Comédie. Lui, il y est.
Bien, voilà une bonne manière d'entrer dans l'œuvre si on n'a pas forcément tout le savoir que présuppose et que requiert la compréhension de ce texte. De toute façon, on n'y comprend rien, c'est ce que vous disiez. Personne n'y comprend rien à Dante, alors lisons-le
c'est
gaiement.
C'est ce que je vous souhaite.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps, grand temps, de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est une actualité historique qui a retenu votre attention.
Oui, ça n'a rien à voir avec les chats. Ça a à voir avec...
Quoique, vous savez, ils sont arrivés vraiment de manière imprévue, donc peut-être qu'on va retomber sur nos pattes.
Non, pas de chat dans ma chronique. Pattes. Il y a 20 ans, en 1997, disparaissait le philosophe Cornelius Castoriadis. Et pour lui rendre hommage, l'association Castoriadis organise dès jeudi, le 26 octobre donc, et jusqu'à samedi, un colloque à l'EHESS et à l'université Paris 7 Denis Diderot. C'est donc l'occasion pour nous de souligner l'actualité de cette pensée politique qui explore tout autant l'expérience et l'imaginaire de chacun, mais aussi de se rendre compte de la radicalité de ce projet démocratique qui a pour enjeu cette question: comment être toutes et tous autonomes ?
Je ne me pose pas comme prophète ou comme celui qui établit la vérité politique définitive, sauf pour ce qui est des grands principes, c'est-à-dire l'incarnation, principe d'autonomie sociale, n'est-ce pas, et individuelle, dans des formes de vie sociale concrètes. Ça ne peut pas être fait que par les hommes et les femmes eux-mêmes, agissant collectivement, s'organisant eux-mêmes, etc. Je peux avoir des idées, je les ai d'ailleurs, de temps en temps je les exprime, je les formule, etc. Mais je n'ai pas envie, enfin je ne me sens pas le droit d'entrer dans des longues descriptions de ce que pourrait être une société future, etc. J'essaye beaucoup plus d'un côté de montrer pourquoi l'ordre actuel est intenable, Et quel pourrait être le principe de l'ordre nouveau ?
Militant, économiste, psychanalyste et bien sûr philosophe, tout autant critique du marxisme que du libéralisme, de ses débuts dans la revue Socialisme ou Barbarie jusqu'à ses Carrefours du Labyrinthe, dont les derniers volumes sont parus à la fin des années 90, sans oublier bien sûr son œuvre cruciale, L'institution imaginaire de la société, qui elle date de 1975, les spécialistes de Castoriadis soulignent cette quête obstinée de l'autonomie. François Doz, dans sa biographie de Castoriadis, en fait ainsi le sens de sa vie. Nicolas Poirier, dans ses travaux, en fait le sens de son ontologie politique. Et tout récemment, en septembre, paru aux éditions de L'Échappée, les deux auteurs, Arnaud Thomès et Philippe Commière, ont carrément fait de l'autonomie le titre de leur livre consacré aux philosophes. Mais voilà, que faut-il entendre par autonomie ? Alors c'est une question qui peut paraître très simple et infini aussi en même temps, mais qu'on peut dédoubler avec Castoriadis. Oui, d'abord, que faut-il entendre par autonomie ? Dans son sens, dans cette tension étymologique entre le soi, la personne, et la loi, entre le sujet et l'institution, pour envisager sa venue concrète, pratique, réelle, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'elle advienne dans une société démocratique. Autrement dit, comment penser ce grand principe de l'autonomie, comme disait Castoriadis, pour que la société démocratique consiste effectivement, et le terme est important pour Castoriadis, dans un peuple qui se gouverne lui-même, qui devrait d'ailleurs déjà se gouverner lui-même.
Les gens sont devenus quand même beaucoup plus critiques, beaucoup plus sceptiques. Ça les inhibe aussi pour agir, bien sûr, parce que c'est aussi une phrase de Périclès dans le discours aux Athéniens, il dit « Nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. »
Les seuls ?
Chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. C'est admirable.
Ah oui.
Il dit, les autres, ou bien ne réfléchissent pas, ils sont téméraires, font des absurdités, ou bien en réfléchissant, ils arrivent à ne rien faire, parce qu'ils se disent, il y a ce discours, il y a un discours contraire, etc. Bon. Or, précisément, actuellement, on a en travers aussi une phrase d'inhibition, ça c'est sûr. Chat échaudé craint l'eau froide. Ils ont goûté tout ça, ils se disent, bon, les grands discours et tout le reste, effectivement, il n'y a plus de grandes choses, et il ne faut pas des grands discours. Mais il faut des discours vrais.
Dans l'introduction de leur essai, Arnaud Thomès et Philippe Commière rappellent les colères de Castoriadis devant cette inhibition, devant ce recul de l'autonomie. La crise des sociétés occidentales voit sans issue le délabrement de l'Occident ou encore une société à la dérive, sans oublier la montée de l'insignifiance. Ce sont autant de titres désolés donnés à ces textes, mais qui poussent peut-être à cette critique, à la réinvention, à ne pas se laisser abattre, mais à faire place à cette instance d'habitude dévolue à l'art, l'imagination. Pour que l'autonomie soit pensée et qu'elle advienne, encore faut-il donc l'inventer, l'imaginer. Et là est la grande idée de Castoriadis. Mais voilà, comment inventer un principe comme l'autonomie, vieux comme le monde, vieux comme les Grecs, qui constitue d'ailleurs le modèle démocratique par excellence pour Castoriadis? En quoi y a-t-il invention et imagination dans ce qui ressemble plutôt à une redécouverte intellectuelle ou à un retour à l'Antiquité? Création, fabrication, action, comment l'imaginaire peut-il donc instituer quoi que ce soit et fonder l'autonomie? Comment peut-il être radical et ne pas seulement répéter, reprendre ce qui est déjà là? Eh bien tout simplement, nous dit Castoriadis, grâce à la spontanéité, grâce à ce simple mais infini fait que parfois les effets, les surgissements et les nouveautés comptent plus que les causes, les raisons et la raison, bref, tout ce qui nous a déterminés. Reste alors à savoir comment provoquer cette spontanéité.
Et vous avez un colloque à nous annoncer, je crois, Gérard.
Donc ce colloque de 3 jours, donc qui commence jeudi jusqu'à samedi, actualité d'une pensée radicale, hommage à Castoriadis, c'est à l'EHESS et à l'Université Paris Diderot, Paris 7, et il y a aussi ce livre, dont je rappelle le titre, Pour l'autonomie, la pensée politique de Castoriadis. C'est de Philippe Commière et Arnaud Thomès et c'est paru aux éditions de L'Échappée.
Merci Géraldine. Et merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Maud Markevitch, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mostyn-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Georges Claes à la lecture des textes et Victoria Asper à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série dantesque sur la Divine Comédie. Demain, nous accéderons enfin au purgatoire et peut-être au paradis en compagnie de Virgile, notre vigie, et de Manuele Granolatti. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, nous attendons vos remarques et commentaires, et sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour, et où vous pourrez également réécouter, télécharger l'émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous demain à 10h donc pour de nouvelles aventures, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.